dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
11h le matin, on est de retour avec Éric Bélanger, collaborateur dans le segment Habs Radio tous les vendredis et tous les lundis à BPM Sport. Comment vas-tu?
Ça va bien, tourne-toi.
Excellent, merci. Avant de parler du match de samedi, la défaite de 1-0 du Canadien face aux Flames à Calgary, on revient sur la date limite des transactions, évidemment, parce que la dernière fois que je t'ai parlé, c'était à 11h vendredi, la date limite était à 15h. Finalement, Kent Hughes n'a pas bougé. T'as entendu tout ce qu'il a dit en conférence de presse. Suzuki est allé le voir. Il lui a dit, s'il vous plaît, change pas les agents libres sans restriction. Il a dit, charrie l'équipe sur ton dos. Puis si tu le fais, puis on gagne des matchs, je veux pas le faire. Il l'a pas fait, mais il a pas jeté non plus.
Non. Puis je t'entendais parler, Tony. Moi, je suis d'accord. J'étais un de ceux qui auraient aimé voir le Canadien bouger, améliorer certainement le poste de deuxième joueur de centre. Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant sur le marché? Est-ce que ça coûtait trop cher? On a vu le nombre de joueurs qui ont changé d'adresse, les prix qui se sont donnés à travers cette période des échanges-là. Je suis pas sûr que Kent était prêt à bouger pour un choix de première ronde pour aller chercher un rental ou un joueur avec un contrat d'un an ou deux encore ou donner un jeune joueur à la Mayu pour essayer d'avoir un push jusqu'à la fin de la saison. C'est difficile de savoir ce qui était disponible. Mais moi, certainement, avec le nombre de joueurs, le nombre de choix repêchage que le Canadien a pour les trois prochaines années, il aurait certainement été capable de donner un 2, un 3 ou quelque chose comme ça pour améliorer l'équipe, pour avoir un petit boost d'énergie pour le reste de la saison. Mais il a décidé de rester statu quo puis voir ce que l'équipe pourra faire jusqu'en fin de saison.
Joe Valeno a été échangé, mais tu sais, il y en a un qui texte, dit « Je l'ai tenté ma chance avec le Québécois de centre, joueur de centre Joe Valeno qui a été échangé aux Blackhawks de Chicago. » Par contre, c'est Détroit a cherché des choses que le Canadien n'avait pas. Donc, tu sais, il faut être honnête aussi, c'est pas parce qu'on veut qu'on doit dire qu'il aurait dû faire cette transaction-là. Le Canadien, ils ont certains éléments, certains, ils en ont pas. Aussi, on sait pas si Détroit veut échanger Joe Valeno, il se bat pour un poste du wildcard avec le Canadien au Canadien. Je te dis pas exact. Que Joe Valeno aurait fait la différence, mais ils ont aucun intérêt d'essayer d'aider le Canadien.
C'est sûr, puis qu'est-ce qu'on demandait? C'est facile de dire on est déçu que Kent Hughes n'a pas bougé, mais comme je disais tout à l'heure, le marché était tellement à la haute pour les vendeurs que Kent Hughes n'était pas prêt à le faire, puis on ne sait pas qu'est-ce qui était disponible et intéressant sur le marché. Donc, il a décidé de faire confiance en son groupe. Mais moi, je pense que le Canadien ne fera pas les séries parce que là, on le voit déjà, on commence à manquer de gaz. Suzuki, à 24 minutes, il ne pourra pas toffer le reste de la saison à un rythme comme ça. On manque de profondeur. Là, on est allé, on a redescendu Beck pour remonter Joshua Roy. J'imagine que ça va être Newhook qui va être au centre de ce trio-là. Moi, je pense que vraiment, marquer des buts va être plus difficile. On le voit. Lorsque Suzuki et Caulfield sont pas sur la feuille de pointage, c'est difficile pour le Canadien.
OK, on revient au match de samedi maintenant. Il y a juste un but qui a été marqué, on l'entend.
Backlund, la rondelle est pour Farabee, fin dans l'entrée de territoire. Farabee attend. Farabee, la passe est reçue par Backlund en déplacement. Farabee, le tir et le but! Les Flames sont le premier but de son match.
Éric, il y a beaucoup, mais beaucoup, mais beaucoup d'améliorations qui sont faites dans la couverture défensive du Canadien depuis le mois d'octobre, là où est-ce que ça a été le désastre total, parce qu'ils ont été, ils ont perdu 5 matchs qui ont donné 6, 7, puis 8 buts par match. Mais samedi soir, sur ce but-là, malheureusement, encore une fois, il y avait confusion. Là. Il y avait des joueurs où il y avait l'air de pas s'en tête, ils ne savaient pas où aller. Je pense à Armia qui couvrait personne, puis je pense à Heinemann.
Oui, mais c'est les zones grises qu'on a parlé si souvent au début de saison, Tony. Puis c'est un petit peu la même chose là-dessus. C'est ça la couverture homme à homme. Quand tu n'es pas directement avec ta couverture à un contre un, on laisse de l'espace dans les zones dangereuses. Là-dessus, là, le joueur sur le long de la rampe, il n'est pas dangereux. C'est qui a marqué le but? C'est Farabee dans le milieu de l'enclave avec du trafic devant le filet de Dobesh. Puis de mon côté, c'est la zone qu'on doit protéger. Il faut protéger la maison et laisser l'espace à l'extérieur des rondes de mise au jeu. Puis ça prend pas grand-chose en une erreur dans un match aussi serré que ça qui a fait la différence. Mais oui, définitivement, le Canadien est meilleur en couverture défensive. On a moins de zones grises, on est plus tight. Mais lorsqu'on devient fatigué dans notre zone, puis lorsque le Canadien a des difficultés de communication ou de coverage dans la zone, c'est là qu'on voit que le Canadien a quand même des problèmes encore à cette facette de jeu-là.
Tu sais, on a beaucoup parlé de zone versus homme à homme ou le système hybride qu'on voit déployer avec le Canadien cette saison. J'ai eu une conversation intéressante avec Chris Nyland hier lors de son podcast, Rod Knuckles Podcast, puis lui, il m'a dit avoir parlé avec Jacques Lemaire. Puis il a demandé à Jacques du fameux système hybride homme à homme parce que Jacques, évidemment, jouait la zone. Et Jacques, c'est une réponse intéressante. Jacques, il a dit qu'aujourd'hui, en 2025, tu peux plus jouer zone. Tu peux plus jouer zone. Puis j'ai demandé pourquoi. Il dit parce que tu peux plus accrocher, tu peux plus ralentir, tu peux plus causer l'obstruction, tu peux plus mettre ton bâton. Donc, il a dit que pour ces raisons-là, c'est homme à homme et mieux que zone. C'est drôle parce que j'aurais pensé le contraire, honnêtement.
Non, je l'ai eu, Jacques, comme entraîneur. Je l'ai adoré. Il est tellement sur les détails défensifs. Je l'ai eu 2 ans au Minnesota, donc je connais très bien son système de jeu. Là-dessus, je ne suis pas d'accord parce que le système homme à homme, à mon avis, pour moi, c'est le système le plus difficile à jouer dans le sens de l'énergie. Le plus efficace, les Bruins l'ont fait longtemps, Vegas le fait, les Panthers le fait, c'est five and a dice où tu as le joueur de centre avec les défenseurs qui est en apport dans le côté défensif où c'est lui qui est en support partout dans la zone. Les ailiers ont leur quadrilatère en haut, reviennent dans l'enclave quand le jeu change de côté. Moi, c'est ce système-là que j'ai préconisé quand j'étais entraîneur et je pense que c'est lui qui est le plus à l'affût des permutations et ces choses comme ça. Lorsque le Canadien a la difficulté dans l'homme à homme ou le hybride, peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est quand il y a beaucoup de permutations, puis les équipes le savent contre le Canadien, quand les défenseurs deviennent actifs en support offensif, en zone offensive, souvent, si on a un joueur ou deux sur la glace qui perd sa couverture, mais là, on vient tout mêler, on ne sait plus notre joueur est où, le défenseur se ramasse en avant à la ligne bleue, un ailier se ramasse en avant du filet, puis moi, je trouve que c'est là qu'on a des problèmes du côté du Canadien. Donc, c'est un système qui est peut-être simple dans la façon de l'appliquer parce que tu restes avec ton homme. Mais quand il y a des ouvertures, c'est là qu'on devient un petit peu prône aux erreurs.
On a parlé beaucoup on parle beaucoup de Lane Hudson, évidemment, Trophée Calder, lui, Celebrini, Michkov. Mais dans l'Ouest, là, il y a Dustin Wolf. Écoute, ses statistiques sont incroyables. Il a joué tout un match. Samedi soir pour le Blanchard, j'imagine qu'il t'a vraiment impressionné, ce jeune-là.
C'est incroyable, Tony. Moi, je pense qu'il va être dans les 3-4 pour l'obtention du Trophée Calder. Puis je pense qu'il pourrait être certainement un des gagnants s'il amène les Flames en série. Ce qu'il est capable de faire, c'est un petit gardien. Puis moi, ça me fait rire parce qu'on entend beaucoup de dépisteurs ou des dirigeants dans la Ligue nationale en ce moment, dans les dernières années, où ils ne regardent même pas les gardiens en bas de 6 pieds 2. Puis Dustin Wolf, là, c'est un petit gardien, c'est le plus petit de la Ligue nationale avec Saros à Nashville. Mais c'est incroyable là, comment il est solide sur ses pieds, comment il bouge bien devant son filet, comment il n'est jamais pris hors position. Si on compare, mettons, le match d'hier de samedi avec Dobesch, Dobesch a bien fait, mais il tombe souvent sur son ventre. Il est moins tight dans son filet. Dustin Wolf, il est incroyable. Ça a été long avant qu'il s'implante dans la Ligue nationale comme gardien. Là, il est devenu gardien numéro 1 puis il est en train de montrer à tout le monde que les petits gardiens peuvent avoir leur chance dans la Ligue nationale puis peuvent avoir du succès.
Si je regarde ces statistiques-là, 2,52 moyenne, pourcentage d'arrêt 915, 22, 12 et 4, c'est sûr qui m'impressionne. Puis c'est sûr que Hudson, c'est un joueur des Canadiens puis on l'aime tous puis on veut le voir gagner. Mais je mets Hudson encore en avance. Pourquoi? Parce que Wolf a joué 38 matchs. Hudson, il a joué tous les 63. Il y a 25 matchs de différence entre les deux, là. Comprends-tu?
Ouais, c'est une position qui est différente. Moi, je suis d'accord, j'ai encore Hudson. Mais moi, je pense que Wolf, s'il continue de la sorte, puis il amène son équipe en série, on n'aura pas le choix de l'avoir dans le top 3. Celebrini a une bonne saison, Michkov a une bonne saison, mais c'est deux équipes qui sont très loin d'avoir une participation aux séries. Puis de le faire comme défenseur, puis de le faire aussi comme gardien de but, deux positions beaucoup plus difficiles, à mon avis, à un jeune âge, de performer à la hauteur qu'ils font. Donc, pour moi, là, c'est Hudson et Wolf sont certainement en avance, à mon avis, mais moi aussi, Tony, j'ai Hudson premier en ce moment, encore une fois. Le match qu'il a joué, il a joué au-dessus de 10 minutes en troisième période, sans route, contre Calgary, une équipe qui a quand même bien joué défensivement, il n'y avait pas beaucoup d'espace sur la patinoire. Il était extraordinaire, encore une fois, samedi soir, Hudson.
Lane Hudson, 24-40, un lancé au but, il en a manqué trois. Il y a un... Il a causé un revirement, il y a quatre lancés bloqués, il y a un mis en échec. Il a été vraiment de tous les attaques. Il n'y avait pas beaucoup d'attaques des Canadiens, il y avait 26 lancés au but, mais il était de tous les attaques. Comment il a trouvé Caulfield en passant, il y avait 6 lancés au but. J'ai vraiment aimé les 6 lancés de Caulfield. Je pense que Wolf a gagné sa bataille contre lui. Très souvent, c'est Caulfield qui gagne sa bataille contre les gardiens de but adverses. J'ai beaucoup aimé Nick Suzuki dans le sac des mises en jeu. 18 gagnés sur 23, c'est 78%. J'ai aimé Jake Evans dans les mises en jeu aussi. Il en a gagné 8 sur 11. Mais Hudson a été de tous les attaques. Il était incroyable samedi soir.
Ben, ça part. C'est spécial à dire que beaucoup de l'offensive part de lui. Puis surtout que, comme on voit, là, pas de deuxième trio, troisième trio, quatrième trio n'ont pas été si dangereux. Le Canadien n'a pas été tant dangereux que ça offensivement, à part Caulfield, Suzuki. Moi, je trouve que Slav a connu un match difficile. Il en a connu trois bons lorsqu'il est revenu de la pause des Quatre Nations. Puis là, on dirait qu'il retourne dans ses vieilles pantoufles. Moins impliqué physiquement, moins impliqué dans le côté offensif du match. Il va falloir qu'il soit meilleur parce que Suzuki et Caulfield jouent de la bonne façon. Lui, se doit de rendre ce trio-là meilleur. Et puis, certainement qu'avec le manque de profondeur qu'on a du côté des quatre trios en attaque, il va falloir que lui soit meilleur. Puis il va falloir que l'apport offensif d'un gars comme Hudson, comme Madison, ces défenseurs-là n'auront pas le choix d'aider le Canadien à provoquer des choses offensivement.
Il n'est pas le seul à avoir joué un bon match parce que quand Jakob Dobesch, on a su que Jakob Dobesch allait être le gardien de but partant, on était pas mal surpris parce qu'on se disait, hey, c'est un match important, ça, c'est le premier match après la date limite des transactions. Correction, j'avais dit plus tôt dans l'émission que le match d'ouverture du CF Montréal à la maison est le 5 avril contre Columbus. Non, c'est le 12 avril contre Charlotte. Enfin, le CF Montréal, comme vous savez, ont débuté leur saison à l'étranger. Ils doivent jouer leurs premiers 7 matchs. Ils ont joué 3. Dans les prochains 4, samedi contre DC, le samedi après ça contre Nashville, le samedi après ça contre Chicago, et le samedi après ça contre Columbus, ils sont tous à l'étranger. Encore une fois, le premier match à la maison va être samedi le 12 avril contre Charlotte au stade Saputo. On est de retour avec Éric Bélanger dans notre segment Habs Radio. Alex Langteau à la mise en onde. Éric, Dobesch, là, ça a été... de temps en temps, il se sortait de son but. J'ai trouvé qu'il voulait être vraiment athlétique. Son style n'était pas toujours à point, mais les réflexes étaient incroyables. Je trouve qu'il a gaulé tout un match le samedi soir là, pour le Canadien. Il a donné vraiment les chances à son équipe de remporter ce match-là.
Oh, il était très bon tourné. Puis moi, honnêtement, j'ai été surpris de l'avoir dans le filet parce que je pensais que le Canadien retournerait avec Samuel Montembeau. On a quand même une cédule qui est salutaire pour le faire jouer à tous les matchs. On a des journées de repos entre les parties. Mais Dobesch fait bien. On n'a pas peur d'envoyer dans le filet sur la route. On l'a vu lorsqu'il a été rappelé comment il avait bien fait. Il a gagné des gros matchs contre des grosses équipes. Puis encore une fois, samedi, il a été très, très bon. Puis comme je disais plus tôt, si on compare le style avec Wolf, oui, il est un petit peu plus croche. Il est un petit peu plus... C'est un gardien qui est un petit peu plus... il garde le filet avec plus d'instinct. Il est très athlétique.
Oui.
Des fois, c'est sûr qu'il est hors de position parce que cette agressivité-là est peut-être trop intense à certains moments. Il est encore jeune. Il va développer ses habitudes. Mais moi, j'aime mieux voir un gardien être plus... être comme ça, être plus agressif que démontrer un petit peu moins de hargne dans la façon d'arrêter les rondelles. Peu importe comment qu'il fait... pourvu qu'il arrête les rondelles, puis c'est ce qu'il a fait samedi, puis il a donné une chance aux Canadiens de gagner. C'était un match défensif des deux côtés, puis les arrêts, ils les ont fait quand c'était le moment.
Oui, on pensait que Dobesch allait jouer mercredi soir à Seattle. Ouais. Les Canadiens vont jouer demain soir à Vancouver, mercredi à Seattle. Ce qui était intéressant dans tout ça, c'est que on pense encore qu'il va jouer mercredi soir à Seattle. Donc, tu sais, le Canadien va faire des séries à tout prix. Mais là, Dobesch a joué samedi soir, ça ne veut pas dire que Montembeau l'aurait gagné, là. Et Dobesch va fort probablement jouer mercredi soir à Seattle, Eric.
Bien, j'ai eu cette conversation-là avec quelques personnes par rapport à... Le Canadien est à un ou deux points des séries éliminatoires. Est-ce que Montembeau est vraiment ton gardien numéro un? S'il était ton gardien numéro un, il n'y aurait aucune question en ce moment qu'il aurait été dans le filet à tous les matchs. Il aurait été dans le filet contre Calgary, il aurait été dans le filet demain, puis là, on a un back-to-back. Mais moi, c'est ça que n'importe quel goaler top dans la Ligue nationale, les Shesterkin, les Vasilevski, on n'aurait pas eu de question. Ça aurait été ces gars-là dans le filet samedi soir. Donc, moi, c'est là que je serais curieux d'être un petit oiseau pour savoir c'est quoi les conversations dans le bureau des entraîneurs par rapport à l'utilisation des deux gardiens. Mais Dobesch a bien fait. Il faut lui lever notre chapeau. Mais Sam Montembeau, s'il est vraiment ton gardien numéro un dans un push pour les séries, il devrait être là dans ces matchs-là.
Qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils ont dû l'appeler, ils ont dû mettre Pezzetta dans l'alignement à cause de la grippe de Patrick Laine? Il n'a même pas joué 5 minutes. C'est ordinaire. En tout respect pour Pezzetta, c'est ordinaire le jour après la date d'émettre des transactions. Tu te lèves le samedi matin, tu es à 2 points du poste de wildcard, puis Laine a la grippe, il faut que tu fasses jouer Pezzetta. Donc lui va jouer 5. Owen Beck, tu sens ton deuxième trio. Ça faisait dur là, avant samedi soir. Là.
Ouais, puis tu sais, c'est pas une situation facile pour Pezzetta. Puis il a quand même joué des bonnes minutes. Il travaille fort, puis il fait ce qu'il a à faire, mais. Tu rentres un gars dans l'alignement, puis je regardais l'utilisation des trios à l'offensive. Là, c'est Brendan Gallagher après Suzuki, Caulfield puis Slafkowski qui a joué le plus de temps de jeu à 16 minutes 53. Jake Evans a joué 12-27. On n'a pas eu beaucoup de joueurs qui ont joué en haut de 16 minutes. Donc ça veut dire que tu as un trio, puis si tu es l'équipe adverse sur la route, tu matches ton meilleur trio défensif avec ta meilleure paire de défenseurs contre le trio de Suzuki. Puis si tu es capable de les monoter offensivement, mais tes chances de gagner sont vraiment meilleures parce que le reste des trios du Canadien, Anderson 13 minutes, Vavorak 14 minutes, Joel Armia 14 minutes 40, on n'a pas eu de joueurs à part Gallagher en haut de 16 minutes. Moi, j'ai rarement vu ça, là, trois autres trios qui jouent si peu que ça. Puis le trio de Suzuki, c'est Caulfield 23 minutes, puis Suzuki 24-31. Pour l'avoir joué à quelques occasions dans ma carrière, là, une fois avec Jacques Lamar, Minnesota, J'avais joué ça 24-25 minutes. Et après le match, là, j'avais de la misère. Là, Tony, c'est dur là, comme joueur de centre, jouer 24 minutes. Là.
Ben oui, ben oui.
C'est incroyablement difficile. Donc, Suzuki ne peut pas finir la saison à jouer 24 minutes.
Mais non, on l'a vu avec Connor McDavid, puis Connor McDavid l'an passé. Là. T'sais, ils l'ont fait jouer. Sixième puis septième match, il n'y avait plus de jus. Là.
Mais non.
C'était fini.
C'est impensable. Tu ne peux pas jouer 24 minutes comme joueur de centre parce que le joueur de centre, c'est toujours lui en repli défensif. C'est lui en support offensif, en support défensif. Là, il tue des pénalités, il joue en avantage numérique. À un moment donné, tu ne peux pas être performant à toutes tes présences. Tu te dois doser. Il faut que tu doses tes choses. Puis tu ne peux, pas être maximisant dans ce que tu fais. Donc, c'est là le problème encore plus important, Tony, qu'on n'ait pas réglé le problème de deuxième joueur de centre pour aider Suzuki dans cette situation-là. Parce qu'en ce moment, Martin, il regarde et il fait « Ouf, OK, après la ligne à Suzuki, là, oui, Evans, c'est des trios qui jouent bien, puis Dvorak défensivement, mais à un moment donné, ça va prendre la part offensive de d'autres joueurs. »
Il y a un texto qui vient de rentrer. L'appel de Roy, il va jouer 8 minutes par match. Ils auraient dû l'appeler Condotta. Si tu veux un gars de 8 minutes, je suis perplexe. Est-ce que tu as la même impression que moi, ou au moins tu l'aspires, là, qui ont rappelé Joshua Roy pour jouer sur le deuxième trio avec Nuuk au centre, avec Patrick Laine, puis c'est justement pour que Joshua Roy, là, il joue ses 14-15 minutes maintenant. Là. J'espère au moins.
Je l'espère pour lui parce que là, il a repris confiance, il a marqué des gros buts à Laval, l'équipe est première au classement général. Là, il arrive dans une situation où là, il a vu Beck avoir des matchs. Là, lui, il attendait l'appel. Il a fait ce qu'il avait à faire dans la Ligue américaine. Ça a été un petit peu en dents de scie depuis le début de la saison. Là, il y a une chance. Il y a une chance parce que les Canadiens, ils n'ont pas de profondeur pour marquer des buts. Donc, Joshua Roy peut le faire. Newhook est capable de jouer au centre sur une courte période de temps. Pour le reste de l'année, peut-être. Il prenait déjà beaucoup de mises en jeu à gauche. Il en a pris 10 samedi contre les Flames de Calgary. Est-ce que Josh va être capable de faire quelque chose avec ce trio-là? Moi, j'ai hâte d'avoir Lainé. Lainé, moi, j'ai un gros point d'interrogation lorsqu'il va revenir. C'est un trio. Est-ce que Martin va être capable de le mettre sur la glace plus souvent qu'il le faisait avec Beck? On l'espère. Mais c'est certain qu'on l'a si on amène Josh pour le mettre dans une situation offensive avec Lainé et Newhook, en espérant qu'il va être capable de faire de quoi avec ce trio-là, parce qu'ils ont besoin d'offensive, ils n'en ont pas assez en ce moment. Là.
Avec Éric Bélanger du podcast La Poche Bleue, Bleu, Blanc, Rouge, et Alex Ovechkin. Là. Alex Ovechkin, il a 1600 points. Il devient le 11e dans l'histoire de la nationale à atteindre 1600 points. Ça, c'était tout à fait exceptionnel. Et évidemment, il est... moi, je n'aurais jamais pensé que Alex Ovechkin aurait battu le record de Wayne Gretzky cette saison. Il ne l'a pas battu encore, là, mais il est à 885 buts. Gretzky, 894. Écoute bien ça, Eric. Alex Ovechkin, 885 en 1471 matchs. Wayne Gretzky, 9 buts de plus en 16 matchs de plus.
C'est 16 matchs hein, qu'il a joué de plus.
16 matchs de plus, il a marqué 9 buts de plus.
Ouais, c'est incroyable.
Connaissant Ovechkin, il ne veut pas seulement le battre, mais il veut essayer de le faire en moins de matchs. Hein?
Ah, c'est ça. Ça, c'est certain. Puis pour avoir joué avec, je connais la personne. Comment qu'il aime ça, marquer des buts dans les entraînements, c'est la fête à toi fois qu'il marque.
Ah ouais,
but.
Hein?
Ah ouais, c'est.
Est-ce que je peux y aller d'une prédiction aujourd'hui?
Ben oui, vas-y.
Si bat le record cette année, il prend sa retraite.
Hey, je ne sais pas. Tu penses? Non.
J'y vais de cette prédiction-là.
Il va finir son contrat.
Je pense que oui, moi aussi, il aime ça. Il aime encore ça jouer au hockey. Ovi, c'est pas un gars qui est là parce qu'il veut faire son 10 millions. Là.
Non, mais il a gagné sa coupe. Il va battre le record. Il jouait beaucoup de hockey, là.
Ils vont en faire peut-être. Moi, je pense qu'ils vont en faire une dernière pour l'apprécier.
Moi aussi, je pense que c'est pas fini.
Bon, c'est qu'est-ce que je souhaite. C'est qu'est-ce que je souhaite.
Parce qu'il reste cette année, puis l'année prochaine à son contrat, ça? Ouais, ben, il va faire l'année prochaine, puis après ça, ce sera suffisant.
Un beau tournée, là, ce serait excellent.
Exactement. Ouais. Moi c'est ce à quoi je m'attends.
Parce que tu le vois, là, comment les joueurs des Capitals, il y a quoi qui se passe là-bas. Ils veulent qu'ils battent le record. Ils sont tellement contents quand ils marquent des buts. Ils veulent lui donner la rondelle. Moi non plus, en début de saison, là, quand on en parlait de ça, je pensais jamais qu'il allait réussir à s'approcher de ce record-là. Puis là, il est à 9 buts, je pense, pour le dépasser.
Même là, c'est 886. Il est à 8 buts.
Oui, c'est
9 buts de le surpasser, c'est ça.
9 buts de le battre, exactement. Ouais, donc, en début de saison, moi, jamais j'aurais pensé qu'il aurait été aussi proche. Là, en ce moment, les Capros ont une histoire. C'est Cendrillon dans la Ligue nationale, ce qu'ils font cette année. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose. Il y a toujours des belles choses qui arrivent. Puis, je ne serais pas surpris qu'ils le battent. J'espère qu'il va le battre cette année parce qu'il le mérite tellement. C'est incroyable qu'il ait été capable de marquer des buts d'une façon aussi constante dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Là. C'est tough à cette heure, marquer des buts. Là.
Donc, c'est 886 en 14-74 parce que j'avais vu une photo qui datait de quelques jours. Là. Donc, c'est 886 en 14-74. Donc, c'est 8 buts de moins, 13 matchs de moins. C'est quelque chose, là.
Incroyable.
Il peut vraiment le faire.
Wow, c'est vraiment quelque chose.
Il peut vraiment le faire, puis j'espère qu'il va le faire. C'est une belle histoire.
Merci, Eric. Canadien, Vancouver, demain soir. Canadien, Seattle, Kraken, mercredi soir. On se parle vendredi soir, mon ami.
Vendredi. Salut, les
Merci.
Amis.
Merci. Bye-bye. 11h27, Marinaro. On va prendre vos appels. Moi, j'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit que je voulais pas voir Ovechkin battre le record de Gretzky. Parce que quand j'étais jeune, Alex, dans les années 80, puis Gretzky faisait son affaire. Là. On jouait au hockey-ball là, dans la rue. On était la fleur. Mais quand on jouait le Canadien contre une autre équipe, on était Gretzky. Comprends-tu? Donc, tu sais, je voulais pas le voir battre le record de Gretzky, mais force est d'admettre, il mérite.
Oui, il mérite.
Il mérite, le gars.
Puis j'aime pas entendre les histoires de « Ah, les équipes font exprès d'enlever leur gardien pour essayer de l'aider à atteindre le record. »
C'est pas vrai, ça.
C'est n'importe quoi.
Les équipes veulent pas voir Alexander Ovechkin battre le record, là.
Non, c'est complètement n'importe quoi. Même s'il marque des buts dans des filets déserts, puis c'est des buts légitimes.
Et je vais ajouter quelque chose. J'aurais jamais pensé que ce record-là aurait été battu. Est-ce que tu aurais gagé là-dessus?
Ben non, jamais.
894 buts, c'est comme tu dis, 900 buts, 20 saisons. de 45 buts.
Ouais.
C'est impensable de battre ça.
C'est énorme.
Et il va le battre.